France Musique.
Et sur France Musique à 8h30, nous avons le plaisir de recevoir Shani Didouka ce matin. Bonjour Shani.
Bonjour.
Pianiste avec un nouveau disque qui s'appelle Cosmos, Beethoven et les ragas indiens, les Indian Ragas. C'est avec Mehboob Nadem et Mittal Purohit, j'ai bien dit ?
Tout à fait.
Merci. Ça paraît chez Warner vendredi, on va en écouter plusieurs extraits là, ce matin, en avant-première. Un concert le 23 février au Théâtre des Champs-Élysées, concert du dimanche matin à 11h. D'abord, Shani Didouka, pour ceux qui ne vous connaissent pas, avec ce nom qui évoque l'Inde, l'Orient, le Sri Lanka. On en parlait là tout à l'heure quand vous êtes venue, tout à l'heure j'ai parlé de Monaco, mais vous êtes bien française.
Tout à fait. Je suis née à
Monaco.
Voilà. Et j'ai d'ailleurs eu mon éducation musicale et scolaire à Monaco. Je dois beaucoup à la principauté puisque c'est la princesse Grace qui a établi ce programme pour détecter les enfants maternels. Et j'étais choisie dans ce programme spécialisé pour les enfants qui avaient des talents particuliers pour la musique. Mais j'ai fait un choix éthique d'être française. Car lorsque je suis venue à Paris au conservatoire, j'ai été très émue par ma rencontre avec des grands auteurs comme Diderot, Montaigne, les droits de l'homme, les grands humanistes, les Lumières. Et pour moi, c'était très important de pouvoir être fidèle à des valeurs qui sont chères. Et donc, j'ai choisi d'être française et je suis très fière d'être entre toutes ces cultures, française, sri-lankaise et aussi ce que j'ai reçu de Monaco.
Sri-lankaise parce que vos parents sont sri-lankais.
Tout à fait, ils sont tous les deux sri-lankais.
Mais ils vivent aujourd'hui d'ailleurs
alors, ils vivent entre le Sri Lanka et Londres. Et toute ma famille est au Sri Lanka en fait. Et c'est vrai que depuis ma tendre enfance, d'avoir un tel contraste entre le Sri Lanka et Monaco était assez frappant et déroutant pour un enfant. Donc j'ai essayé de comprendre d'où je venais, mon identité. Et la musique a été la réponse. C'est-à-dire la culture, la curiosité a été la réponse à cette quête d'identité.
Si je vous pose des questions, Shani Didouka, c'est pas parce que je vous demande vos papiers, c'est parce que ça va expliquer des choses. Et notamment, peut-être, c'est pas la première fois que vous faites des pas de côté, que vous prenez des chemins de traverse. Je me souviens de ce programme et ce disque autour de la symphonie des oiseaux avec des siffleurs d'oiseaux. D'ailleurs, vous continuez à les donner. D'où vous vient, Shani Didouka, ces goûts pour des pas de côté dans le monde de la musique? Si on peut appeler ça des pas de côté, pour vous d'ailleurs.
Oui, je dirais plutôt que tout est un ensemble. Je considère que l'art est une forme de dire l'art transfigure le réel et de pouvoir associer plusieurs mondes, comme c'est le cas d'ailleurs quand on lit la biographie des grands compositeurs, on se rend compte de leur de l'écoute et de la grandeur d'esprit. Quand on sait que Beethoven s'intéressait à Shakespeare, à l'Égypte ancienne, au-delà de la nature, quand on sait que Goethe et Schubert avaient une relation particulière, que René Char et Boulez. Pour moi, finalement, la musique ouvre les horizons. C'est peut-être l'art le plus global, le plus abstrait, mais c'est celui qui touche le plus, je crois, tous les domaines.
Il n'y a pas la culture classique occidentale d'un côté et le reste de l'autre, mais tout se mêle. Je vous propose qu'on écoute le début de ce disque. C'est la première plage. Alors, on va écouter, puis on expliquera après. C'est bien la sonate au clair de lune de Beethoven, mais comme vous ne l'avez jamais entendue. Thank you. La suite, on la connaît et on est obligé de chanter pour qu'on se parle, Shani Di Luca, de ce projet hors norme, hors du commun, inédit, Cosmos, Beethoven et les Indian Ragas, avec ce début de la sonate au clair de lune de Beethoven et cette introduction, Mebub Nadem et Mitel Purohit. Shani Di Luca, c'est quoi cette idée? C'est quoi ce projet? Qu'est-ce qu'on vient d'entendre?
Alors, j'ai eu la chance de rencontrer des grands maîtres beethoveniens. Beethoven m'accompagne depuis toujours. J'ai enregistré l'intégrale des sonates pour violoncelle et piano avec Valentin Erben du Quatuor Alban Berg. J'ai joué l'intégrale des concertos. Et tout naturellement, je lisais les écrits de Beethoven régulièrement, les correspondances. Et j'ai eu une immense surprise de voir que Beethoven était intéressé par la culture indienne. C'est historiquement justifié. J'ai eu plusieurs musicologues qui m'ont écrit, même de l'étranger, pour confirmer, puisqu'il y a eu donc ces textes de Kalischer qui ont été traduit par Shedlock, et pourtant c'était en 1905, donc ça date d'il y a un petit moment. Et donc on a vu que Beethoven avait lu les Upanishads, qui sont des prières indiennes ancestrales, et c'était l'arrivée en Allemagne chez les grands romantiques de la culture orientale. Donc pour Goethe par exemple, la découverte de Hafez, le poète persan, et puis pour Beethoven et même pour Schubert, l'arrivée des écrits indiens, et Schopenhauer aussi va être très influencé. Et évidemment pour moi c'était une grande surprise de me dire que Beethoven non seulement avait lu ces textes Upanishads, apparemment il a même lu la Bhagavad Gita, qui est une épopée sacrée de la grande Inde, et il a recopié des textes de ces Upanishads qui parlent de la relation de l'homme au cosmos en surlignant certains mots. Évidemment, pour moi, c'était bouleversant de savoir qu'un homme comme Beethoven, donc en 1819, à l'arrivée donc de ces traductions qui sont arrivées en 1816 en Allemagne, s'est jeté dans ces textes et avait cette quête de connaissance de l'autre. Et je crois que à l'heure où on crée des murs, où on a peur du prochain, où il y a une sorte de méfiance qui s'installe, je crois que c'est très très émouvant de voir que Beethoven s'intéressait à l'autre, à l'étranger, comme un enrichissement. Donc pour moi, ce projet est né de cet émerveillement.
Et dans ce disque qui paraît vendredi, dans la pochette que j'ai là sous les mains, il y a ces textes qui sont reproduits, il y a des mots donc qui ont été souligné par Beethoven, tout ce que nous adorons, tu l'as précédé, à toi nos louanges, à toi notre adoration, toi seul, tu es le bienheureux, Bhagavan, toi l'essence de toutes les lois, l'image de la sagesse, tous nous sentons ta présence, tu portes toutes choses, soleil, éther, Brahma. Et donc ces textes que vous découvrez, il y a votre double culture, mais ensuite il y a le projet concret avec ces deux musiciens. Comment a-t-il été conçu, imaginé, ce qu'on vient d'entendre? Là, c'est d'abord cette introduction avec le sitar et les tablas, et puis ensuite vous qui jouez, et puis ce passage, cette transition, comme si il y avait une continuité.
Oui, disons qu'il m'était très cher de respecter avant tout l'écriture beethovenienne en ayant reçu ces enseignements un peu sacrés. Pour moi, évidemment, Beethoven, je n'ai pas bougé une note des partitions. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'au départ, on l'a expérimenté en concert, avant tout pour savoir comment pouvait se mettre en place ce dialogue. Et lorsque j'ai commencé à étudier de près les ragas, j'étais fascinée par la relation au niveau de la forme entre les ragas et les sonates. C'est-à-dire que quand on voit la forme sonate de Beethoven, on parle en gros d'un leitmotiv, d'un élément qui va se transformer comme une âme qui voyage tout au long, et donc dans le développement de la forme sonate, et on retrouve le même cheminement dans les ragas.
C'est quoi les ragas pour ceux qui... Comment on peut définir, expliquer?
Alors les ragas sont une forme de musique méditative, spirituelle indienne, de l'ordre du sacré, c'est toujours lié au divin. D'ailleurs, Beethoven parle de ce chemin entre l'homme et le divin assez souvent, de façon remarquable. Et les ragas donc sont une tradition ancestrale, donc le sitariste par exemple, donc c'est sitar et tabla, et la sitar a ses harmoniques très particulières. Lui vient d'une famille de 15 générations de sitaristes, donc c'est des grandes traditions, et c'est une forme de méditation, une sorte d'élévation spirituelle. Et ce qui m'enchante en fait dans cette rencontre entre l'élévation spirituelle indienne et celle de Beethoven, c'est une sorte d'unité, une sorte d'universalité qui en fait en concert est flagrante. Et donc dans le enregistrement, j'ai essayé de reprendre des éléments de Beethoven. Donc si on écoute bien les ragas, il y a les notes que l'on retrouve dans les sonates.
On vient de l'entendre. Hein.
Voilà. Et j'ai essayé de construire avec ces musiciens indiens des sortes de ponts, des résonances entre ces mondes. Et en plus, je crois que techniquement, les résonances de sitar, les harmoniques, ces cordes de sympathique, on le retrouve aussi dans les grandes pédales de Beethoven, puisque Beethoven était fasciné par la résonance, bien sûr par sa surdité, mais aussi par une modernité dans les sonorités du piano. Donc, il y a vraiment un parallèle et je crois une unité qui se crée, qui me dépasse moi-même finalement.
En concert le 23 février au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, le dimanche matin à 11h, un moment qui peut se prêter d'ailleurs à cette atmosphère, à cette ambiance de croisement des musiques.
Oui, je dois dire que c'est un moment très très particulier pour moi de pouvoir créer ce projet au Théâtre des Champs-Élysées. Et c'est vraiment Jeannine Rose qui a cru dès le départ, elle qui a aussi une grande curiosité.
Voilà, que nous avions d'ailleurs reçu ici même il y a quelques semaines, ouais. Qui est une fidèle auditrice. Le 25 février à Tarbes, vous donnerez également ce programme à la scène nationale Le Parvis. Et le disque, il sort vendredi. On écoutait le début de la sonate au clair de lune, mais dans cette version Raga et Beethoven, et bien voici l'autre sonate au programme, c'est la Passionata. Un extrait du disque Cosmos, Beethoven et les ragas indiens qui paraît vendredi. Shani Diluka au piano, ici Mehboob Nadem au sitar. C'est le deuxième mouvement de la 23e sonate de Beethoven, Appassionata, avec ses incursions, ses variations de raga. Comment on peut dire, comment vous définissez Shani Diluka?
Le raga?
Non, c'est façon de mêler la musique de Beethoven et ici, là, c'est une variation autour de ce qu'on a entendu avant que vous avez joué au piano, c'est ça?
Tout à fait. Donc là, en l'occurrence, dans ce mouvement-là, Beethoven part des graves du piano comme une sorte de cœur d'homme. Et au fur et à mesure, les variations vont monter vers les aigus du piano comme une sorte d'ascension vers les étoiles avant de s'abîmer dans le dernier mouvement, dans le désespoir et la rage. Et ce qui m'intéressait, c'est de rajouter une variation entre celle-ci par la sitar, comme c'est ce cheminement vers l'au-delà, vers l'âme. Et je trouve que en tout cas, j'ai essayé d'écrire tout ce projet dans une sorte de cheminement universel. Donc cette idée de fraternité qui était si chère à Beethoven. Et si on se souvient bien, Ravi Shankar et Yehudi Menuhin avaient commencé ce dialogue il y a maintenant presque 50 ans.
Bien sûr.
Avec des instruments vraiment historiques. Et Menuhin avait cette ouverture d'esprit, cette spiritualité qui me touche beaucoup. Là, ce qui est vraiment très intéressant, en tout cas pour moi, c'est de pouvoir, dans la musique, construire ce dialogue entre ces deux grands langages spirituels.
Pourquoi vous avez choisi ces deux sonates-là, Clair de Lune et Appassionata?
Ben, ce sont deux sonates évidemment très très fortes et symboliques. Le Clair de Lune, qui a été composé autour du testament de Heiligenstadt, ce moment où Beethoven pense mettre fin à ses jours et après dont il a la conviction que l'art peut sauver les hommes et les élever. Pour moi, il était important de trouver ce cheminement. Donc, dans le Clair de Lune, par exemple, les trois premières notes du premier mouvement, Sol, Do, Mi, ce fameux premier mouvement, on retrouve les mêmes notes dans le dernier mouvement de cette sonate. Sauf qu'elles sont accélérées et du désespoir et je dirais même du renoncement, on arrive à la rage et à la colère par les mêmes éléments. Donc, organiquement, on retrouve la même construction que dans les ragas. Et puis, la Passionata, il y a vraiment, pour moi, ce chemin entre l'abîme et puis les étoiles qui sont vraiment partie prenante de ce et la rythmique qui est aussi très importante dans les ragas et dans la musique de Beethoven.
Ces ragas, sitar, tabla, c'est de la musique improvisée, c'est de la musique écrite ou écrite par qui?
Alors les ragas
sur le disque.
Donc les ragas sont en une série de notes. Donc chaque raga a une, comme la musique sérielle, a une symbolique par rapport à certaines notes. Et puis à partir de là, donc il y a le raga du soir, le raga de la mousson, le raga du printemps. En fait, les ragas sont liés à pratiquement justement au cosmos, au mouvement du temps. Et c'est pour cela que c'est intéressant de le mettre en parallèle avec Beethoven, puisque Beethoven était vraiment à l'écoute. Quand on sait que la symphonie pastorale, la manière dont il écrit sur la nature, cette relation qu'il crée entre l'homme et la nature, on peut le retrouver dans les ragas. Donc les ragas sont une composition à partir d'une base de notes. Et chaque raga a un sens.
Cosmos, le disque sort vendredi chez Warner Classics. Shani Diluka, Beethoven et les ragas indiens. Mehboob Nadem et Mittal Purohit. Un concert le 23 février, le dimanche matin au Théâtre des Champs-Élysées. Vous parliez d'ouverture d'esprit et d'engagement. Shani Diluka, vous êtes une musicienne engagée. Alors au micro, vous voulez pas le dire, mais moi je vais le dire. Il y a des réfugiés qui sont invités, par exemple, à ce concert du 23 février. Et vous avez un projet, ça s'appelle Watch, comme observer, avec l'orchestre de chambre de Paris. Je voudrais qu'on parle en quelques mots de ce projet, de quoi s'agit-il? Vous coordonnez musicalement ce projet avec des détenus?
Oui, c'est un projet qui m'est très cher et je remercie l'Orchestre de Chambre de Paris avec qui je continue cette collaboration. Dans l'engagement auprès des détenus, ça fait des années que je joue dans les prisons, depuis 7-8 ans à peu près. Et là, en l'occurrence, c'est l'idée de la notion du temps en prison avec la prison de Meaux. Et donc j'ai eu plusieurs discussions avec la directrice de la prison de Meaux. Et puis il y a le metteur en scène, Olivier Fredge, qui construit, ce spectacle. Et ce qui va être très émouvant, c'est que là, donc, je vais aller en prison régulièrement à partir de fin février, pratiquement toutes les deux semaines, travailler avec les détenus, leur jouer Schubert. Donc c'est Schubert qui va être la clé de voûte de cette exploration sur le temps. Je pense que Schubert est peut-être la meilleure personne pour répondre. Et imaginons que le temps pour eux soit quelque chose de très particulier, l'attente. Et puis je vais leur jouer Le Voyage d'hiver. Et à partir de ce voyage d'hiver, le périple de, justement, le voyage intérieur qui va accompagner les détenus qui viendront sur scène avec moi le 30 avril à la scène nationale de Bobigny.
À Bobigny, oui. avec le public. Hein.
Là, bien sûr, ça sera ouvert au public.
Dans la prison, c'est vraiment ouvert
au
public.
Voilà, ce qui est exceptionnel.
Le but, c'est ça.
Bien. Les détenus seront là avec des comédiens, les musiciens de l'Orchestre de Paris. Et voilà, pour moi, c'est un projet très, très important.
Les musiciens de l'Orchestre de Chambre de Paris que vous connaissez bien, Chendi Luca, puisque vous avez joué avec eux. C'était sur votre précédent disque, Carl Philipp, Emmanuel Bach.
Tout à fait.
C'était le précédent disque de notre invité ce matin, Chendi Luca, ce concerto de Carl Philipp Emmanuel Bach avec l'orchestre de chambre de Paris dirigé par Ben Klasberg. Et donc ce projet Watch qui aboutira à un spectacle à la MC 93 de Bobigny le 30 avril. Le nouveau projet, c'est Cosmos. Ça sort vendredi. C'est un disque chez Warner, Beethoven et les Ragas avec ces deux musiciens que, dont vous avez rencontrés. Mais j'avais une question quand même à vous poser. Votre jeu de Beethoven, depuis que vous travaillez avec eux, depuis que vous jouez avec eux, est-ce qu'il a changé ?
Je crois que il y a vraiment une notion d'espace-temps qui est vraiment très intéressante dans la musique indienne. Et de savoir que Beethoven s'intéressait à cela m'a évidemment donné une idée de ce qu'était cet homme qui pensait plus à ce qui nous rassemblait. Et la musique, c'est vraiment pour moi le cœur de ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous sépare. Ça nous rappelle justement cette unité. Et je crois qu'évidemment, ça apporte une dimension. Et l'écoute même des ragas et des sonates ensemble, je trouve un voyage assez intéressant dans l'idée d'unité. Alors qu'on imagine des cultures si diverses. Et finalement, on se retrouve dans l'universel. Et je crois que c'est le mystère, ce mystère inaccessible de ce qui nous unit. Et que la grâce est dans toutes les cultures.
On écoutait en début d'entretien, le début du disque, en voici la fin. Thank you. ne peut pas plaire à tout le monde. Nous, ça nous plaît, Shani Di Luca. Cosmos, le disque sort vendredi. Le concert, c'est le 23 février à Paris, au Théâtre des Champs-Élysées, et le 25 à Tarbes. C'était Mebob, Nadem, au sitar, Mitel Purohito au tabla, et vous, au piano, Shani Di Luca. Merci beaucoup d'être venue sur France Musique. Demain matin, notre invité sera un grand pianiste, un grand chef aussi, Christophe Eschenbach. Il fête ses 80 ans avec un orchestre qui lui est cher, l'Orchestre de Paris, à la Philharmonie de Paris.
À réécouter sur francemusique.fr.